Bien, bonjour à tous pour donc notre dernière séance de travail ensemble. Vraiment, je pense que la neige nous aura été fidèle jusqu'au bout, tout comme vous d'ailleurs. Donc, nous avons vu la semaine dernière comment la cynophobie, qui vient se substituer à la cynophilie des Lumières à partir du milieu du XVIIIe siècle, prend la forme seulement quelques décennies plus tard, c'est-à-dire dès le tout début du XIXe siècle, d'un rejet de la Chine hors de la nouvelle identité européenne, qui s'affirme notamment dans une redéfinition du champ de la philosophie. Une philosophie définie en termes professionnels et institutionnels, c'est-à-dire comme une discipline d'un savoir universitaire enseigné par des professeurs dans le cadre des facultés de philosophie. Alors, cette nouvelle discipline se donne un nouveau genre d'outils didactiques que sont les manuels d'histoire de la philosophie, qui fleurissent d'abord en Allemagne au tournant du XVIIIe-XIXe siècle, suivis de près par la France, avec, comme nous l'avons vu, des échanges très étroits entre les deux pays. On a vu par exemple comment la Geschichte der Philosophie de Tennemann est traduite en français par Victor Cousin. Et à l'inverse, Tennemann, vous l'avez ici. Donc, et à l'inverse, l'histoire comparée des systèmes de philosophie de De Gérandeau est traduite en allemand par Tennemann. Donc, la philosophie, avec une majuscule, se constitue donc de par son histoire, et en conséquence, les peuples déclarés sans philosophie sont aussi déclarés sans histoire, toujours avec une majuscule. Alors, ces histoires de la philosophie, qui constituent donc un nouveau genre, ont pour objet de retracer le récit, ce que les anglo-américains appellent actuellement « narrative », donc le récit d'une aventure intellectuelle présentée comme spécifiquement et exclusivement européenne, dont les origines, alors on a vu que la quête des origines, c'est une quête chère au romantisme allemand, donc dont les origines sont identifiées comme étant grecques. Alors, les origines grecques de la philosophie et de l'identité européenne nous apparaissent encore maintenant, c'est-à-dire deux siècles plus tard, comme une évidence. Nous avons tous, ou presque tous, fait de la philosophie en classe de terminale, et nous nous souvenons tous que dès le premier cours, donc, on nous a convaincu donc des origines grecques de la philosophie. Pratiquement la première phrase de tous les cours de philosophie de terminale, c'est la philosophie donc commence en Grèce. Alors, il faut rappeler cependant que ça n'était pas du tout une évidence au XVIIIe siècle, où les Grecs, comme on l'a vu, étaient considérés simplement comme des philosophes ethniques, comme on les appelait à l'époque, par les théologiens et les penseurs chrétiens. Et ce même XVIIIe siècle où les philosophes comme Voltaire et Leibniz s'intéressaient à la Chine précisément parce qu'ils y voyaient l'aspect originel d'une civilisation remontant à une antiquité antédiluvienne, c'est-à-dire donc antérieure au déluge, repère biblique par excellence. Donc, on observe une reconfiguration à la fois spatiale et temporelle qui permet de repousser la Chine dans un Orient lointain et dans une antiquité tellement ancienne qu'elle en devient primitive. Tennemann, dans sa Geschichte der Philosophie, dans son Histoire de la philosophie, écrit ceci, je cite, « Quoique nous retrouvions chez tous les peuples des traces de l'esprit philosophique, néanmoins, cette disposition générale de l'esprit ne se voit point chez tous développée au même degré. La philosophie ne s'est pas élevée partout jusqu'à former une science. Le peuple grec est celui dont le génie original a fait époque dans l'histoire de la philosophie. Les peuples orientaux, qui, pour l'Antiquité et la date de leur civilisation, se placent avant les Grecs, ne s'élevèrent jamais à la même hauteur, autant du moins que nous pouvons en juger. » Tennemann se montre un tout petit peu prudent en fin de phrase. Alors, le grand Hegel, qui cite Tennemann et d'autres prédécesseurs allemands dans la bibliographie de ses leçons sur l'histoire de la philosophie, pose d'emblée la question « Où devons-nous commencer l'histoire de la philosophie ?» C'est « où » et non plus « quand ?» puisque poser la question du « quand », c'est évidemment reconnaître la plus haute antiquité des civilisations orientales. Donc là, maintenant, la question devient plutôt géographique. Réponse de Hegel, la philosophie commence là où l'essence des choses parvient à la conscience sous forme de pensée pure. C'est le cas dans le monde grec. Et Hegel de marteler au début de tous ses cours, à chaque début de semestre, alors il le dit vraiment sur tous les tons et sous toutes les formes, nous avons deux philosophies, un, la philosophie grecque, deux, la philosophie germanique. Et il s'ensuit que, et je cite toujours Hegel, « ce qui est oriental doit donc s'exclure de l'histoire de la philosophie ». Et Victor Cousin, donc notre disciple français donc, de Hegel, renchérit dans le sens d'une opposition binaire qui ne nous a plus tellement quittés depuis. Je cite Victor Cousin, « La Méditerranée et la Grèce sont l'empire de la liberté et du mouvement, comme le haut plateau du monde indo-chinois, c'est-à-dire donc l'Inde et la Chine, est l'empire de l'immobilité et du despotisme. » Alors, je dois dire que ça fait vraiment plaisir d'entendre des philosophes aussi roboratifs qui, au moins, ont le mérite de ne pas mâcher leurs mots. Parce qu'aujourd'hui, on est plus soucieux du politiquement correct et on enrobe davantage ses propos. Je me souviens d'un collègue d'un département de philosophie parisien qui me disait que la pensée chinoise lui donnait un sentiment océanique. Alors, je pense qu'il faut comprendre vaste et vague, indéterminé, sans bord, c'est-à-dire, en clair, sans les contours nettement découpés du concept. Et alors, c'est amusant de constater que ce collègue retrouvait, pour ainsi dire, spontanément des accents hegéliens, puisque Hegel, toujours dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, nous dit, je cite, « C'est là le caractère général des idées et des philosophèmes religieux en Orient, une immensité où tout se perd. » Alors, donc, nous qui avons donc découvert, comme je le disais tout à l'heure, la philosophie en terminale, nous avons bien retenu, donc, dès le tout premier cours, que cette noble conquête de la pensée est d'origine grecque. Alors, or, que cela plaise ou non, force est de constater la manière dont la Grèce, comme origine de l'identité européenne et en tout premier lieu de la philosophie, s'est imposée dans un processus d'invention. Alors, je précise qu'il ne s'agit pas de l'invention au sens ordinaire d'idées imaginaires, gratuites et plus ou moins farfelues, mais au sens où pourrait l'entendre l'historien britannique Eric Hobsbawm, alors ça s'écrit H-O-B-S-B-A-W-M, dans le livre qu'il a coédité avec l'africaniste Terence Ranger, donc R-A-N-G-E-R, en 1983, qui est paru aux presses universitaires de Cambridge, un ouvrage qui est devenu déjà un classique et qui s'intitule « The Invention of Tradition », c'est-à-dire donc « L'invention de la tradition ». Et dans cet ouvrage, Hobsbawm part de la constatation que des traditions qui nous semblent anciennes ou qui se proclament comme telles ont souvent une origine très récente pour la bonne raison qu'elles ont été inventées. Il y a une espèce de loi selon laquelle plus une tradition est revendiquée avec force et insistance, plus on peut être à peu près sûr qu'elle est d'origine récente. Donc, qui dit tradition dit évidemment volonté de perpétuer le passé. Et dans le cas de traditions inventées, il s'agit de se forger une identité et une légitimité en inventant une continuité avec un passé historique approprié, c'est-à-dire un passé sélectionné et au besoin reformaté pour les besoins de la cause. Alors Hobsbawm observe que ce phénomène d'invention de tradition s'intensifie dans les périodes de transformation rapide de la société. Et voilà pourquoi, selon lui, les 200 dernières années, c'est-à-dire donc depuis le début du XIXe siècle, ces 200 dernières années sont une période privilégiée pour l'observation d'un tel phénomène. Alors Hobsbawm parle en l'occurrence de l'Europe, et on comprend que la définition du précaré de la philosophie, plongeant ses racines non plus dans l'Orient biblique, mais en Grèce, trouve sa justification donc dans une Europe en pleine expansion, hein, l'Europe du XIXe siècle, et trouve son autre repoussoir idéal dans l'Orient, et plus spécifiquement la Chine. Alors, d'autant plus repoussoir que cet Orient ou cette Chine ont été érigés en modèle par les philosophes des Lumières. Donc là, nous avons un pendule qui va aller à l'extrême inverse. Alors, c'est évidemment un paradoxe de plus que c'est ce même processus d'invention de la tradition qui se trouve réapproprié et à un degré tout aussi exacerbé, sinon plus, dans la Chine actuelle, comme nous l'avons vu l'année dernière et comme nous aurons l'occasion d'y revenir sous un angle différent l'année prochaine. Alors maintenant, pour en revenir à Hegel, dans la section de ses leçons sur l'histoire de la philosophie consacrée aux Chinois, Hegel mentionne ce qu'il perçoit, ou plutôt ce qui lui est présenté, comme les grandes sources d'inspiration de la pensée chinoise, à savoir donc ce qu'il appelle le Yi Qing, autrement dit donc le Yi Jing, le livre des mutations, Confucius, bien sûr, et Lao Tzu, ici. Alors, pas étonnant d'ailleurs que ce soit encore aujourd'hui ce que j'ai appelé dans ma leçon inaugurale le tiercé gagnant. C'est à peu près en fait les trois seuls, disons, best-sellers que connaissent les médias. Hein. Alors, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est au retour de sa visite à Paris en 1826, au cours de laquelle Hegel fait la connaissance d'Abel Rémusa, premier titulaire donc de la chaire de langue et littérature chinoise et tartare manchou au Collège de France. Donc, c'est au retour de cette visite de 1826 à Paris que Hegel fait une mention spéciale pour le taoïsme. Et voilà comment il articule les trois enseignements, ce que les Chinois appellent les sanjiao, donc dans une, là aussi dans une reconfiguration quelque peu surprenante. Hegel écrit ceci: on trouve dans l'Empire chinois une religion Fo ou de Bouddha, hein, Fo étant donc la transcription chinoise de Foto, c'est-à-dire de Bouddha. Donc cette religion a été introduite en Chine en 50 après Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première chose. Puis on trouve la vieille religion du Tao ici. Alors là, c'est assez surprenant, en fait, la manière dont Hegel comprend Tao. Il nous explique: celui-ci est un dieu plus singulier, à savoir la raison. Il nous dit donc « ein eigentümlicher Gott, die Vernunft ». Et en troisième position, donc, arrive la religion d'État, « die Staatsreligion », à savoir la religion de l'Empire chinois, qui est la religion du ciel et des mandarins, c'est-à-dire les Zhou, les Confucéens. Alors, le plus piquant, c'est que pour identifier le taoïsme comme religion de la raison, Hegel se fonde sur une lettre datée de 1787 du père Joseph Amiot, missionnaire jésuite en Chine. Le père Joseph Amiot qui parle dans ces termes de la secte des Tao-se, comme il dit, c'est-à-dire donc les Tao-shi. Alors les Tao-shi, en fait, donc, dans la réalité chinoise, sont des sortes de, on pourrait dire, des prêtres, enfin, même s'ils ne sont pas consacrés, mais en tout cas des personnes qui sont chargées des cultes taoïstes. Et voilà comment le père Amiot, en bon jésuite, décrit donc cette secte des Tao-se. Et on a vu donc que les jésuites considèrent la secte taoïste comme la secte des sorciers. Donc il nous dit ceci: la fameuse secte des Tao-se, rivale des lettrés, mais aujourd'hui tombée dans le discrédit, est souverainement méprisée de tous les gens d'honneur, parce que depuis quelques siècles, elle n'a compté parmi ses adeptes que ce qu'il y a de plus vil dans la nation. Alors là, le paradoxe, évidemment, c'est que Hegel s'appuie donc sur cette lettre du bon père Amiot pour faire de cette secte du Tao la secte de la raison. Et ça, c'est vraiment avec la caution scientifique d'Abel Rémusa que Hegel inverse complètement l'échelle de valeur des jésuites, puisque pour les jésuites, il y avait la philosophie de Confucius d'un côté et les superstitions taoïstes et bouddhistes de l'autre. Alors que nous voyons donc Hegel faire du taoïsme tout d'un coup une religion de la raison. Donc, de toute évidence, c'est bien Abel Rémusa qui a révélé à Hegel l'existence, je cite, d'une secte particulière chez les Chinois, je cite Hegel, celle de ceux que l'on nomme Tao-se, donc Tao-shi. Ceux qui font partie de cette secte et ne sont pas des mandarins et qui ne se sont pas associés à la religion d'État et qui n'appartiennent pas non plus à la religion bouddhiste. Leur notion principale est Tao, c'est-à-dire la raison, die Vernunft. Et Hegel continue ainsi: Tao-se signifie partisan de la raison. La conduite de la vie est pour eux l'essentiel. Ils la nomment Tao-Tao. Alors là, je ne sais pas d'où il sort ça. Alors, Tao-Tao, c'est selon lui la loi de Tao, la direction ou la loi de la raison. Ils consacrent leur vie à l'étude de la raison et assurent que celui qui connaît la raison en son fondement possède la science universelle. D'après Abel Rémusa, c'est toujours Hegel qui parle, Tao signifie chez les Chinois, hein, alors là c'est exact, chemin, moyen de communication d'un lieu à un autre, puis, alors là il y a un peu extrapolation, raison, substance, principe. Tout ceci condensé au sens métaphorique, métaphysique, signifie chemin en général. C'est le chemin, la direction, le cours des choses et le fondement de l'existence de toute chose. Tao est donc la raison, et alors là, donc Hegel cite Abel Remusa, est donc la raison originelle, la nous, l'intelligence en grec, qui a engendré le monde et le gouverne comme l'esprit régit le corps. D'après Abel Remusa, ce mot se rendrait le mieux par logos. Fin de citation. Alors, cette traduction de Tao par raison a déjà une longue histoire. Nous avons vu que dans les traductions des classiques chinois par les jésuites, les mots Tao et Li sont le plus souvent traduits en latin par ratio. Et nous avions vu également que c'est ce que reprenait Leibniz dans sa fameuse lettre à M. de Raymond, dont j'ai parlé précédemment. Donc, au XIXe siècle, cette traduction de Tao ou Li par ratio ou par le grec logos est déjà utilisée de manière conventionnelle, quasi routinière, par Abel Remusa dans tout ce qu'il écrit sur la Chine. Par exemple, dans ses mémoires concernant les Chinois, Abel Remusa traduit donc le fameux premier verset du Lao Tzu, autrement connu sous le nom de Tao Te Ching, hein, le Tao Te Ching, c'est-à-dire donc le livre canonique du Tao de la voix et de sa vertu, comme on traduit de manière conventionnelle, on pourrait dire de sa puissance. Donc, nous avons ce fameux premier verset, Tao ke Tao, fei chang Tao, qui voudrait dire littéralement donc le Tao que l'on peut appeler Tao ou dont on peut parler n'est pas le Tao constant. Ça, c'est donc une traduction littérale de ce verset. Et voilà ce que ça donne, traduit par Abel Remusa. La raison peut être raisonnée. Ou en latin, ratio quidem ratio cinativa, insolita vero ratione. Et cette traduction est reprise comme argent comptant par Hegel, qui traduit ainsi ce premier verset. Alors là, on a un peu de mal à reconnaître donc l'original. La raison primordiale peut être subordonnée à la raison ou bien exprimée par des paroles, mais ceci est la raison surnaturelle. Fei chang tao, ça devient la raison surnaturelle. Mais Hegel conclut en disant voilà qui, dans l'ensemble, ne nous apprend pas grand-chose. En effet, hein, c'est je suis assez d'accord. Alors, donc, à son couplet sur Tao, compris comme nous ou logos, Hegel donc ne peut pas s'empêcher d'ajouter. Cela demeure toutefois bien confus. La langue chinoise, donc après avoir donc cru identifier donc un lieu de la raison dans la tradition chinoise, il conclut dans ces termes. Donc ça nous apprend pas grand-chose et ça demeure très très confus. Et il continue dans ces termes. La langue chinoise, à cause de sa structure grammaticale, crée beaucoup de difficultés. Monsieur de Humboldt a dernièrement démontré dans une lettre à Abel Remusa combien indéterminée était la construction grammaticale. La langue chinoise, c'est Hegel qui continue, donc la langue chinoise est si peu précise. Alors là, bon, je m'excuse beaucoup, mais Hegel, je crois que sa connaissance du chinois était quand même relativement limitée. Et donc, son verdict sur l'imprécision de la langue chinoise me paraît peu fondé. Mais enfin, voilà ce qu'il dit. La langue chinoise est si peu précise qu'elle n'a ni préposition, ni désignation de cas. Des mots sont mis plutôt les uns à côté des autres. Les déterminations demeurent ainsi dans l'indétermination. Alors, Hegel se réfère ici à un échange épistolaire entre Abel Rémusa, qu'il considère comme le meilleur connaisseur de l'Orient et qui est donc le titulaire de cette chaire de chinois au Collège de France, donc entre Abel Rémusa et son collègue allemand Wilhelm von Humboldt, dont vous avez le nom ici, si je le retrouve, Wilhelm von Humboldt, ici, qui répond à Abel Rémusa sur la nature des formes grammaticales en général et sur le génie de la langue chinoise en particulier. Alors, vous avez un ouvrage tout à fait important et décisif qui porte sur cet échange épistolaire entre les deux savants, donc français et allemand. Il s'agit de l'ouvrage édité par Jean Rousseau, comme Jean-Jacques, c'est Jean tout court, Rousseau, et Denis Thouard, T-H-O-U-A-R-D, qui s'intitule « Lettres édifiantes et curieuses sur la langue chinoise », sous-titre « Un débat philosophico-grammatical entre Wilhelm von Humboldt et Jean-Pierre Abel Rémusa ». Échange épistolaire qui a eu lieu entre 1821 et 1831. Alors là, chose tout à fait curieuse, c'est qu'il s'agit précisément de la décennie pendant laquelle Hegel donne ses leçons sur l'histoire de la philosophie à Berlin. Alors, cet ouvrage de Jean Rousseau et Denis Thouard a été publié par les presses universitaires du Septentrion, donc à Lille, en 1999. Alors, ce débat philosophico-grammatical, comme l'appellent Rousseau et Thouard, a pour enjeu philosophique de savoir si la langue chinoise est, par sa structure même, apte ou non à l'exercice philosophique. Autrement dit, est-il possible de philosopher en chinois ? De toute évidence, nous dit-on, la réponse est non. Et si on veut résumer, on pourrait dire pas de flexion, donc pas de réflexion. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur le fait que le chinois ne comporte pas de flexion, c'est une langue non flexionnelle, c'est-à-dire que ça ne comporte pas de conjugaison, de déclinaison, de marque de différenciation des genres, etc. Donc pas de flexion, donc pas de réflexion possible. Alors là aussi, je me permets quand même de faire remarquer que ça n'est pas parce que le chinois ne comporte pas les mêmes formes grammaticales que les langues européennes, flexionnelles, qu'il n'a pas de grammaire, et que nous avons une langue où les mots sont mis les uns à côté des autres au hasard. Alors, nous avons une opposition maintenant qui n'est plus seulement d'ordre philosophique, mais qui est plus profondément d'ordre linguistique entre, d'un côté, donc, les langues flexionnelles, aptes à la philosophie, s'entend, et de l'autre côté, les langues non flexionnelles, comme le chinois, et donc inaptes à la philosophie. Alors, les langues flexionnelles sont évidemment les langues européennes, principalement dérivées du grec et du latin, auxquelles le XIXe siècle se figure avoir découvert une origine commune en Inde, à savoir dans le sanskrit. Alors, on peut se référer notamment, et là je passe assez rapidement, mais je vous signale quand même le nom, aux travaux de Franz Bopp, ici, qui aboutissent en 1816 à un ouvrage important qui s'intitule « Le système de conjugaison de la langue sanscrite comparé à celui des langues grecques, latines, persanes et germaniques ». Donc, ouvrage allemand dans lequel, semble-t-il, apparaît pour la première fois l'expression indo-européen ou indo-germanique pour désigner l'ensemble européen et indien des langues anciennes. Alors, la thèse défendue précédemment, en 1808, par son compatriote Friedrich Schlegel, dans son essai sur la langue et la sagesse des hindous. Donc cette thèse défendue par Friedrich Schlegel du sanskrit comme langue mère s'y trouve invalidée, mais quand même au profit d'une parenté entre le grec et le sanskrit. Donc du fait de cette parenté découverte entre le sanskrit et le grec, la Chine se retrouve du coup dissociée de l'Inde, avec laquelle elle avait été regroupée jusque-là dans l'entité Orient. Et donc, l'argument linguistique concernant le sanskrit, qui rejoint donc les langues flexionnelles européennes, et qui en serait même, selon certains, la langue mère, la langue d'origine, cet argument linguistique a pour effet de relier l'Inde à l'Europe et d'isoler encore davantage la Chine comme l'autre absolu, l'autre absolu de l'Europe. Alors, plus généralement, nous avons ici l'expression d'un double préjugé qui a encore maintenant, toujours deux siècles plus tard, la vie extrêmement dure. Donc là, j'attire votre attention justement sur la persistance de certaines idées désormais toutes faites, qui nous apparaissent comme des évidences, mais dont j'essaye de vous montrer donc c'est l'origine il y a deux siècles. Alors, d'une part, nous avons l'idée que la langue chinoise n'a pas de grammaire. Et alors, le plus fort dans tout ça, c'est que c'est une idée dont on a réussi à persuader les Chinois eux-mêmes. Interrogez les Chinois autour de vous, ils vous diront tous « Ah ben oui, c'est évident, le Chinois n'a pas de grammaire. » Alors, d'autre part, il y a aussi l'idée quelque peu contradictoire avec la première, que cette même langue chinoise, donc tout en étant dépourvue de grammaire, est d'une extrême complexité. Aujourd'hui, en français, dire que c'est du chinois, ça a tendu à remplacer c'est de l'hébreu, mais ça continue à se dire d'un galimatia totalement incompréhensible. Or, là aussi, tous ceux qui ont eu le courage de surmonter ce préjugé en apprenant le chinois, du moins le chinois moderne, vous diront que c'est une langue facile à apprendre, là c'est mon petit coup de publicité, précisément parce qu'il n'y a pas une quantité de règles de grammaire à apprendre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grammaire, et évidemment là il y a un tout petit hic, c'est que je parle évidemment pas de l'écriture, qui est une autre paire de manches quand même. Alors, je signale à ce propos la prochaine conférence de notre collègue linguiste de l'École des hautes études en sciences sociales, Madame Viviane Alton, qui est par ailleurs l'auteur d'un livre tout à fait remarquable et utile, c'est-à-dire à la fois critique et synthétique, qui s'emploie elle aussi à pourfendre un certain nombre de mythes tout en restant parfaitement accessible. Alors, il s'agit d'un livre paru chez Albin Michel en 2008, c'est un livre tout récent, qui s'intitule « L'écriture chinoise, le défi de la modernité », où là, elle vous explique de manière très claire tout ce que vous avez voulu savoir sur la langue, sur l'écriture chinoise, sans oser le demander. Alors, donc, Madame Alton, ça s'écrit A-2-L-E-T-O-N, va donner une conférence que, si vous pouvez, ne ratez pas, qui s'intitulera « La construction d'une Chine imaginaire, de points langue et écriture ». Et c'est une conférence qui est donnée dans le cadre du Collège international de philosophie, mais qui se déroulera au lycée Henri IV, pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas où c'est au 23 rue Clovis, près du Panthéon, et c'est mercredi prochain, le 17 février, de 19h à 21h. Donc courez-y, ça, je pense que ça éclaircira beaucoup de choses. Bien, et alors, notre Confucius dans tout ça. Je vous expliquais tout à l'heure comment Hegel s'employait donc à faire une distinction très nette entre, d'une part, la secte du Tao, qui est pour lui la secte de la raison, et d'autre part, donc d'un côté, la religion bouddhiste, et de l'autre, la religion d'État, hein, qu'il considère comme étant celle de l'empereur, et des mandarins. Et alors là, je vous lis rapidement donc tout le passage qui concerne Confucius, qui est évidemment dans son échelle de valeur est placé donc en bas de l'échelle. Alors, parmi les Chinois, le plus renommé pour la philosophie est Confuce, latin Confucius. Il a joui d'une grande notoriété, notamment au temps de Leibniz. Alors là, Hegel évidemment se souvient de son grand prédécesseur allemand. Mais il en prend totalement le contre-pied. Ses livres à Confucius, qui sont très nombreux, sont des plus considérés chez les Chinois. Ils en font leur étude principale. Il a commenté d'anciens livres de ce peuple, de genre historique surtout, et écrit aussi une histoire. Ses autres travaux concernent la philosophie. Ce sont également des commentaires d'anciens ouvrages traditionnels des Chinois. Cependant, c'est le perfectionnement de la morale qui lui a valu le plus de réputation. Ses ouvrages les plus célèbres ont été dernièrement traduits par un Anglais. Un missionnaire français a traduit du chinois sa biographie. D'après cette biographie, il a vécu au VIe siècle avant notre ère, fut quelque temps ministre, quitta ensuite le service et vécut en philosophant avec ses amis et ses disciples. Nous possédons aussi des conversations de lui avec eux. Ça, c'est les entretiens. Pour l'essentiel, ses pensées sont d'une part des doctrines morales, d'autre part, des prescriptions en partie fort insipides concernant le culte et les usages. La morale est bonne et honnête, sans plus. Ne nous attendons pas à y rencontrer de profondes recherches philosophiques. Il faut encore moins songer à trouver chez lui de la spéculation. Confucius fut un homme d'affaires. Ça ferait plaisir à certains contemporains chinois. Bon. Fut un homme d'affaires d'une sagesse pratique. Pour nous, il n'y a rien à glaner dans son enseignement. Nous n'avons pas, par conséquent, à y insister davantage. Les propositions qu'on y relève se trouvent partout, sont universellement connues. Le De Officiis de Cicéron vaut peut-être mieux et offre pour nous plus d'intérêt que tous les livres réunis de Confucius. Ceux-ci sont très délayés, comme des livres de prédication morale. On peut donc dire avec raison qu'il aurait mieux valu pour la réputation de Confucius, que l'on n'eût pas traduit ses ouvrages. Ainsi, en nous faisant connaître son système de morale par une traduction allemande, on lui a fait perdre chez nous beaucoup de sa réputation. Alors, là, je crois que le verdict est, on ne peut plus clair. La morale de Confucius est très commune, elle ne vaut même pas celle de Cicéron, et on aurait mieux fait donc de ne pas traduire les entretiens. Là, c'est... autant pour moi, hein. Bien. Alors, le confucianisme, cette grande et sublime philosophie pour les jésuites et leurs lecteurs des deux siècles précédents, devient donc chez Hegel une morale d'État formaliste, interdisant l'existence d'une liberté subjective et par conséquent totalement hétérogène à la philosophie proprement dite. Et donc, sur le plan de l'interprétation, il est entendu désormais que la doctrine confucéenne est une simple morale et qui, plus grave encore, a promu une politique despotique et immobiliste. Et donc, primauté nouvelle accordée à l'abstraction spéculative pour déterminer ce qui vaut en philosophie, comme ce qui distingue l'humanité avancée de la pensée dite primitive, donc cette primauté n'y est évidemment pas étrangère. Alors, les Chinois, bien sûr, ont bien retenu que Hegel considère les entretiens comme rien de plus que des ce qu'ils appellent des chushi ge yan, c'est-à-dire des de simples maximes ou paroles de sagesse, donc pour s'adapter donc au monde. Alors ça, ça me rappelle les propos d'un collègue américain qui enseigne dans une école d'officiers américains, donc, et qui me racontait qu'il avait eu l'idée un jour, donc ce collègue en fait a quand même le grand mérite d'essayer d'inculquer aux officiers américains quelques notions sur la culture chinoise. Et donc il a eu l'idée un jour de leur faire étudier donc, les entretiens de Confucius. Et alors ce qu'il a recueilli comme impression après donc lecture de la part de ces officiers, c'est que ces analects, comme les appellent donc les Anglo-Saxons, ces entretiens, sound like a series of fortune cookies strung together. Hein, c'est-à-dire donc on dirait une série de fortune cookies. Hein, c'est vous savez ces espèces de gâteaux infâmes d'ailleurs. Qu'on vous distribue dans les restaurants chinois à la fin du repas, donc, et où vous trouvez à l'intérieur des proverbes soi-disant chinois. Donc on dirait une série de fortune cookies enfilées en collier, hein, les unes après les autres. Hein. Donc voilà le genre d'impression que donnent les entretiens chez les officiers américains. Là, je voulais quand même vous montrer cette... ce dessin satirique. Voilà. Est-ce qu'on pourrait... Oui, je ne sais pas si... Oui, enfin, vous le voyez peut-être assez clairement, où on nous montre donc un Confucius rond de cuir, hein, producteur donc de platitudes. Hein. Alors, vous avez donc, c'est un dessin satirique qui est paru dans un journal américain, donc où Confucius donc a pondu ses maximes d'une sagesse profonde. Donc, the road may fork, so drive carefully, c'est-à-dire donc la route peut s'embrancher, enfin fourcher, donc conduisez avec précaution. Do not let the bed bugs bite. Hein, au lit, donc, faites attention de ne pas vous faire piquer par les punaises. Looks like we're in for some rain. Hein, on dirait qu'on va avoir de la pluie. Hein, donc, ça, c'est évidemment donc le genre d'image qui met d'assez mauvaise humeur donc disons spécialistes chinois des entretiens, dont notre historien Li Ling, hein, qui justement fait référence à ce dessin satirique au début de son ouvrage sur les entretiens de Confucius, et qui évidemment en fait état avec une certaine mauvaise humeur. Alors je passerai assez rapidement hein, sur la deuxième moitié du XIXe siècle, qui est, comme vous le savez, donc marquée par l'expansion coloniale européenne, où le rejet de la Chine hors de tous les précarés qui constituent la suprématie européenne tourne donc à une sinophobie carrément raciste. Hein. Vous avez donc dans le sillage notamment de notre grand philosophe national donc Auguste Comte, hein, et de sa vision positiviste donc du progrès, Auguste Comte qui a quand même consacré un ouvrage à des considérations, hein, je cite, sur l'ensemble de la civilisation chinoise qui date de 1861, et où il expose donc ses conceptions selon lesquelles la race jaune, monothéiste, où sont particulièrement développées les fonctions actives, peut servir de transition entre les races noires fétichistes, où les fonctions affectives sont prépondérantes, et la race blanche, récemment passée au stade positiviste. Et vous seriez quand même assez étonné de savoir que ces conceptions racistes, hein, disons-le carrément, se retrouvent dans des ouvrages républicains bontains, hein, et qui sont de très large diffusion. Par exemple, vous avez à l'entrée philosophie du grand dictionnaire universel Larousse, paru en 1879, ceci, c'est chez les races indo-européennes que le sens philosophique s'est développé, et c'est là qu'il importe de suivre l'évolution de la pensée. Cependant, avant d'entrer dans cette étude, il ne faut pas oublier qu'en dehors du monde arien, se sont formées donc d'autres formes de philosophie. Bien, alors pas de commentaires. Et pour terminer, donc, nous avons là aussi chez un philosophe de notre magistère philosophique national, à savoir donc Alfred Fouillé. Alfred Fouillé, dont on a peut-être un petit peu oublié le nom, mais qui a quand même enseigné donc à l'École normale supérieure et qui a été donc l'auteur d'une, lui aussi, d'une histoire de la philosophie compilée donc en 1875. Et alors donc cet Alfred Fouillé est également l'auteur donc d'ouvrages dont les titres sont à eux seuls assez explicites. Par exemple, Tempérament et caractère selon les individus, les sexes et les races, paru donc en 1895, ou bien Esquisse psychologique des peuples européens, où il est écrit, où Alfred Fouillé, donc le philosophe, nous apprend qu'il en est de la constitution ethnique pour un peuple comme de la constitution physiologique et cérébrale pour l'individu. Alors ça, ce sont des propos qui ont réémergé récemment. Chaque homme naît avec des facultés naturelles plus ou moins grandes. De même, si un individu appartient à une race humaine inférieure ou dégénérée, la conformation native de son cerveau lui interdira tout développement qui dépasserait certaines limites. Et il conclut en disant « Seules les races européennes sont capables du plus haut développement intellectuel et social. » Alors, c'est peut-être anecdotique, mais ça vous amusera peut-être de savoir que ce Alfred Fouillé a été donc l'époux d'une dame qui est l'auteur du fameux Tour de la France par deux enfants, donc qui a signé donc ce fameux ouvrage qui a été distribué à toutes les distributions des prix de l'école laïque. Elle l'a signé sous le pseudonyme de G. Bruno, en hommage donc à Giordano Bruno. Alors, c'est un manuel donc de notre bonne école laïque et républicaine, mais qui n'est pas exempt, lui non plus, des préjugés coloniaux et racistes courants donc à la fin du XIXe siècle, puisque le chapitre 75 de ce Tour de la France par deux enfants est intitulé « Les quatre races d'hommes », et donc divise l'humanité en quatre races blanches en premier, jaune en second, noir et rouge. La race blanche étant dite évidemment la plus parfaite. Vous pensez peut-être que ce discours proprement raciste appartient donc à un 19e siècle totalement révolu. Détrompez-vous, je dois dire que j'ai eu la très grande surprise tout récemment de recevoir une proposition très sérieuse d'un éditeur universitaire que je ne nommerai pas, de consacrer un essai à ce qu'il appelait, je cite, « la pensée jaune ou chinoise ». Je vous laisse deviner ce que j'ai fait de cette proposition. Bien, alors, comme donc le résume très bien Annelise Dick dans l'article que j'ai cité précédemment, Annelise Dick parle d'une contrainte réciproque qui trouve sa meilleure illustration dans la stratégie contradictoire qui consiste d'un côté à rejeter la Chine hors de la philosophie et d'un autre côté à parler de philosophie à propos de la Chine. C'est-à-dire que vous avez cette affirmation totalement contradictoire. Donc, la Chine, bien sûr, possède une philosophie, ça on le sait depuis les jésuites, mais la philosophie n'existe pas en Chine. Alors, en France, où on est resté largement marqué, ou en tout cas le magistère philosophique a été largement marqué par l'héritage hegélien, par la médiation de Victor Cousin, l'héritage hegélien puis heideggerien. Alors, quand on ne dit pas avec Hegel que l'Orient est avant la philosophie, on dit avec Heidegger qu'il est à côté, ce qui aboutit aujourd'hui à des dissertations à perte de vue sur la Chine comme l'autre de la philosophie. Alors, un fait intéressant, c'est que le double questionnement suscité par la réception de la médiation jésuite au XVIIIe siècle, puis par la philosophie professionnelle du XIXe, c'est-à-dire donc vous avez à la fois ce mouvement sinophile et son inverse sinophobe, donc ce double questionnement, à savoir le confucianisme est-il une religion ou est-il une philosophie, ce questionnement se retrouve dans l'argumentaire d'intellectuels chinois modernes et contemporains, comme nous l'avions vu l'année dernière, par exemple chez quelqu'un comme le philosophe Li Zihou, qui, pour sa part, caractérise l'enseignement confucéen comme étant pan zhe xue, pan zong jiao, c'est-à-dire donc moitié religieux, moitié philosophique. Et nous avions vu comment il en venait à qualifier donc la philosophie chinoise donc de philosophie de la rationalité pragmatique. Alors, ce rappel donc de ce que j'ai développé l'année dernière nous permet de voir dans la profondeur historique comment les intellectuels chinois d'aujourd'hui, dans le contexte d'un retour de Confucius qui rappelle par certains aspects la sinomania européenne des XVIIe, XVIIIe siècles, donc comment ces intellectuels chinois reprennent à leur compte, de manière d'ailleurs plus ou moins consciente, des thématiques et des questionnements déjà formulés et élaborés par l'Europe des Lumières et ensuite donc l'Europe du XIXe. Et c'est dans ce sens que je parlais dans ma leçon inaugurale d'un phénomène de va-et-vient, d'un côté donc d'orientalisation de la Chine et en retour d'auto-orientalisation des élites chinoises modernes. Et je vais conclure là-dessus puisque j'ai un petit peu insisté justement sur ce que j'ai appelé ces lunettes que nous avons sur le nez et dont nous n'avons presque plus tellement conscience, tellement nous les avons sur le nez, ces lunettes avec lesquelles donc nous lisons notamment Confucius et ses entretiens. Donc nous aborderons l'année prochaine effectivement une lecture proprement thématique de ces entretiens à partir de décembre prochain. Mais en attendant, avec le professeur Edward Slingerland, qui viendra nous parler donc le 1er juin prochain des us et abus de Confucius en Occident, nous aurons certainement l'occasion justement de revenir sur cette question. Et je signale d'ores et déjà, vous avez tous les renseignements sur le site internet du Collège de France, mais je le signale d'ores et déjà, un autre rendez-vous important en juin, les 17 et 24 juin, avec Sir Geoffrey Lloyd, éminente helléniste que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui s'est intéressé, lui, de manière éclairée donc, à la Chine et qui viendra nous donner deux conférences, le 17 et le 24 juin. Merci donc de votre attention. Merci de m'avoir accompagné donc tout au long de cette deuxième année de cours. Et pour l'heure, alors, tous mes voeux renouvelés pour l'année du Tigre, qui, je vous le signale, commence ce dimanche 14 février, c'est-à-dire le jour de la Saint-Valentin. Bien. Donc, bonne année à tous. Et donc, à décembre prochain, ou en juin, en tout cas. Merci.